votre permission, on ne va pas sacrifier au quart d'heure Poitevin, qui est aussi Tourangeau, Angevin, Nantais, etc. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu à cette invitation de l'espace Mendès France pour une soirée un peu particulière, parce que là, on est pour le moment tous les deux à la tribune, mais cette soirée, on l'entend comme étant un atelier collectif correspondant à une discussion qui a commencé dans cet établissement voici fort longtemps. Alors, pour organiser cette soirée, je voulais tout d'abord remercier Daniel Laumont, ici présent, avec qui on dialogue de manière permanente depuis une dizaine d'années sur la place de l'environnement dans la société et plus spécifiquement dans la programmation de l'espace Mendès France. Daniel est notre conscience intermédiaire avec toute une série de réseaux. Donc, merci Daniel. Merci à Jean-Luc Terradillos, le rédacteur en chef de l'actualité Nouvelle-Aquitaine. Cette revue a depuis longtemps arpenté les champs de l'environnement dans toutes ses dimensions. On a ressorti un ancien numéro, puisqu'il s'appelait l'actualité Poitou-Charentes, sur la biodiversité, numéro qui reste d'actualité. Alors, juste avant de passer la parole, de vous représenter, Benoît Théo, ici présent, merci Benoît d'être là, vous redire dans quel esprit nous souhaitons travailler, parce que l'espace Mendès France a vu son activité largement modifiée, à la fois par la réforme territoriale, mais aussi par l'évolution des demandes de nos publics. Concernant les réformes territoriales, je voulais simplement rappeler que cet espace, qui est un des 17 espaces de culture scientifique français, a eu la chance d'avoir depuis son origine un support fort de la ville de Poitiers et de la région Poitou-Charentes à l'époque, Jean-Pierre Raffarin comme président et ensuite Ségolène Royal. Et depuis le 1er janvier 2016, nous sommes devenus établissement à vocation régionale de la région Nouvelle-Aquitaine, j'en dirai un mot. Et depuis le 1er janvier 2017, établissement intégré au dispositif enseignement supérieur, recherche, innovation et culture de Grand Poitiers. Je salue la présence de Florence Jardin, vice-présidente de l'agglomération. Merci Florence d'être là, puisque vous le savez, et dans les jours qui viennent, ça va être confirmé, l'espace Mendès France a vu son identité largement crédité par un certain nombre d'institutions, et dans quelques jours sera dans cet établissement le directeur général de la DATAR, puisqu'il y a un certain nombre de méthodologies que cette maison a mis en place sur les 15 dernières années au niveau territorial, en particulier en milieu rural, qui font l'objet d'une étude pour une extension plus large. Alors, si je parlais de territoire avant d'atterrir très concrètement à notre thématique de ce soir, c'est tout simplement parce que au-delà du bâtiment dans lequel vous êtes, qui reçoit à peu près 60 000 personnes par an, nous avons développé une plateforme territoriale où nous sommes présents dans 800 communes différentes pour créer les conditions d'une continuité de l'information scientifique, technique, technologique auprès de nos concitoyens. Il n'y a pas de raison que les urbains aient plus d'informations que nos concitoyens en milieu rural. Et le travail de déploiement et d'itinérance que nous faisons depuis 20 ans, c'est à peu près 80 000 personnes, pas loin de 100 000 en 2017, j'imagine, permet de corroborer cet état de fait, c'est qu'il y a une grande demande d'information au-delà de ce que nos concitoyens vont chercher sur Internet, et surtout une grande demande de débat. Alors, par rapport à ça, l'espace Mendès France entend déployer son activité, bien entendu, à l'intérieur de cet établissement, avec une programmation la plus variée possible. Dans Grand Poitiers, on commence à discuter avec un certain nombre d'élus. Je vous rappelle, c'est 40 communes. Oui, il y a eu deux fusions, c'est ça, c'était 42. 40 communes. Donc pour nous, c'est un enjeu primordial. Surtout que la région et l'État nous ont donné comme rôle de développer autour des questions de chimie verte et des questions de transition environnementale un rôle particulier de réflexion, de mise en débat et de production d'un certain nombre d'outils et destinations, bien sûr, du monde de l'éducation, la communauté éducative, le monde scolaire. En 2017, c'est un peu plus de 2000 classes qui seront venues ici ou dans lesquelles nous serons allés, mais également d'organiser le débat avec nos concitoyens. Alors, la soirée du 21 novembre, aujourd'hui précisément ici, elle est consacré à une réflexion qu'on a commencé l'an dernier sur qu'est-ce qu'un déploiement territorial, donc en l'occurrence pour Grand Poitiers, à l'ère de cette transition environnementale qui est multicritère. Et je vois dans la salle beaucoup de têtes connues. Pour aller très très souvent dans les communes de la région ex-Poitou-Charentes, l'infra-région, alors les Bordelais appellent ça la paléo-région, Poitou-Charentes, pour aller souvent dans cette région, je me rends compte à quel point les Poitevins, l'agglomération de Poitiers, nous sommes privilégiés de notre, par notre proximité avec l'information, parce qu'il y a l'université, parce qu'il y a la recherche. Donc l'idée de cette soirée, nous avons déjà commencé le travail l'an dernier, c'est que à la suite de la présentation que Benoît va nous faire, donc je vais en dire un mot, Benoît, et bien merci d'être là, c'est de vous entendre sur, sur ce qui semble pour vous être de l'ordre des priorités, vous, alors soit en tant que citoyen, soit en tant que responsable de structures, quelle que soit la nature de ces structures, et comment vous pensez que les choses peuvent avancer. Tout ça se fait dans un contexte un peu morose. La COP 22 au Maroc et la COP 23 n'ont pas donné que des éléments qui nous permettent de nous enthousiasmer définitivement. Il y a beaucoup d'obstacles devant nous, mais je pense qu'au niveau des territoires, et peut-être qu'à un moment ou un autre, Florence aura des choses à nous indiquer, au niveau des territoires, il y a plein de petites victoires à remporter et que les petits ruisseaux des actions récurrentes, permanentes, peuvent donner des résultats importants. Donc l'idée, c'est aussi que cette soirée soit une séance de travail collective et qu'on puisse évoquer ensemble un certain nombre de choses. Vous le savez, cette maison a un tropisme particulier qui est celui de dire qu'il n'y a pas d'avancée dans nos sociétés sans appui sur la connaissance et la recherche. Donc dans ce sens-là, nous essayons en permanence de promouvoir ce qui se passe dans nos laboratoires, dans nos écoles d'ingénieurs. Donc je remercie Jean-Yves Chenbeau de nous avoir délégué en son absence un responsable de la plateforme O de l'ENSI Poitiers, trop méconnu, parce que cette plateforme que j'ai fait visiter l'an dernier aux responsables de l'université d'Okayama au Japon les a absolument tellement enthousiasmés qu'il y a des étudiants japonais qui vont venir au mois de février prochain pour dire qu'on a parfois dans notre proximité des choses qui sont retenues ou reconnues par l'extérieur. Alors c'est l'expression d'une des prophètes en son pays. Et par rapport à nos problématiques, sachez que la plateforme O de l'ENSI Poitiers, l'École nationale supérieure d'ingénieurs de Poitiers, est un fleuron. Tout comme le laboratoire IC2MP, qui est issu de la catalyse, est un des fleurons internationaux de la chimie verte. Donc ça veut dire qu'on a des outils, on a un potentiel, il faut mieux les connaître pour pouvoir mieux s'en servir. D'autre part, quand la région a audité l'espace Mendès-France, ils ont reconnu que le travail qui avait été fait depuis longtemps ici avait mis en exergue le fait que la question environnementale pouvait être aussi une question de développement en termes de recherche, bien sûr, d'innovation, de transfert de technologie sûrement, mais aussi d'éducation, et que tout ça était un problème éminemment culturel et politique. Donc ce soir, la parole elle est ouverte. On fait circuler une petite feuille pour celles et ceux d'entre vous qui souhaiteriez laisser leurs adresses, leurs courriels, disent nos camarades québécois, les adresses internet, pour qu'on puisse commencer à créer une communauté active. Et regardez dans un dialogue que nous avons engagé largement avec les communes de Grand Poitiers et Grand Poitiers pour qu'une soirée comme celle-là puisse avoir des petits et des suites. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est une chose en deux temps. Benoît va nous... Alors Benoît Théo, vous le connaissez certainement, c'est un historique, c'est le canal historique de l'environnement, mais également de l'usage des médias, de l'image dans ces problématiques, ce qui n'est pas forcément évident. Et je ne sais pas combien tu as fait de COP, tu vas nous le dire, mais tu es certainement un des rares à en avoir fait.
La première
fait,
et la dernière.
Voilà, déjà, voilà. Un des rares à avoir fait sûrement une majorité de COP. Et je pense que le recul historique permet aussi de mettre en perspective toutes ces inquiétudes qu'il y a actuellement, puis des raisons d'espérer. L'opération sur laquelle tu vas nous dire aussi quelques mots, moi, m'intéresse beaucoup et peut nous intéresser, cette opération Initiative Climat. D'ailleurs, Jean-François Louineau me rappelait qu'en 2004 ou 2005, je ne sais plus, la région avait initié avec l'ADEME quelque chose qui était exactement de la même teneur et sur le même registre, ce qui prouve que même si l'histoire se répète, ça permet aussi de remettre tout ça dans le temps. Donc Benoît, merci d'être là. À travers ta présentation, la préoccupation climat est quelque chose qui prend de l'ampleur parce que ton travail nous a permis régulièrement de faire du lien, bien sûr, avec tous les champs de la société, parce que tout le monde est impliqué. Et puis aussi, parler de ce qui se passe en Afrique francophone en particulier, parce que je pense que c'est indicatif d'exemples que nous pourrions suivre, et non pas faire comme d'habitude, les Européens viennent dire à nos amis africains ce qu'il faut faire. Donc je pense que, je sais que dans tes exemples, il y a des choses qui seraient inspirantes pour nous. Donc, et deuxième partie de la soirée, c'est, bien sûr, vous aurez sûrement des questions-réponses. Je demanderai à certains d'entre vous qui sont là de témoigner sur ce à quoi ils pensent. Alors, il y a une chose qui est importante dans cette maison, la parole est ouverte. Deuxièmement, il n'est pas interdit de parler de ce qui ne va pas. Ce n'est pas parce qu'on parle de ce qui ne va pas que pour autant les choses ne font pas avancer. Et souvent, c'est à travers cette expression que des résolutions de problèmes par des témoignages sur des solutions qui ont été trouvées permettent d'avancer. Donc n'hésitez pas, la parole elle est ouverte, nous sommes entre nous. Donc Benoît, je te laisse la parole pour 25 minutes.
Cool. 26 minutes, voilà. On va essayer de tenir le temps. Alors, si tu me permets, Didier, je vais couper mon intervention en trois parties, la première partie en trois parties. Je voudrais d'abord faire un état des lieux avant la COP23. Parce que là, c'est vrai que la COP23, elle s'est terminée samedi. On n'a pas encore tous les éléments de décryptage. Vous pouvez l'imaginer, les délégations sont reparties. Il va falloir, au cours des prochaines semaines, tirer un petit peu tous les enseignements de cette nouvelle COP. Ensuite, on va parler évidemment de ce qui s'est quand même passé pendant la COP et les moments en tout cas les plus forts, les premiers enseignements qu'on peut en tirer. Et puis, si vous voulez, on pourra avoir des échanges ou des questions d'éclaircissement sur cette COP. Et puis enfin, je parlerai un petit peu des activités donc menées dans le cadre d'Initiative Climat. C'est un programme que j'anime dans l'espace africain francophone depuis 2 ans. Alors, souvent, juste avant les COP, de nombreux organismes publient des rapports dont l'objectif est de faire pression sur les États et les entreprises et aussi mobiliser l'opinion publique internationale. Alors, certes, ces rapports sont diffusés dans des milieux spécialisés, mais ils sont néanmoins quand même très utiles. Alors, vous l'avez su, l'événement majeur de la COP22, puis ensuite de la réunion du G7, a été le retrait des États-Unis de l'accord de Paris. Et depuis la décision de Trump, les initiatives se sont multipliées de la part des scientifiques, des villes et de l'opinion publique états-unienne. Alors depuis 1990, par exemple, sur décision du Congrès américain, les États-Unis doivent publier les résultats d'une évaluation nationale sur le climat. Alors ce rapport est établi par 13 agences nationales, la plus connue est la NASA, et il est présenté au public par l'Agence nationale océanique et atmosphérique, la NOAA. Et le dernier rapport a été publié tout juste 3 jours avant l'ouverture de la COP23. Et ce rapport établit un lien sans ambiguïté entre le changement climatique et la pollution causée par l'homme. Là, j'en ai ressorti un extrait. Il est extrêmement probable que les activités humaines, en particulier les émissions de gaz à effet de serre, sont la cause dominante du réchauffement observé depuis le milieu du XXe siècle, donc indique le texte de ce rapport. Alors le document précise plusieurs points. La température annuelle moyenne de l'air à la surface du globe a augmenté de 1 degré entre 1901 et 2016. La période actuelle est désormais la plus chaude de l'histoire de la civilisation moderne. Entre 2021 et 2050, la hausse devrait atteindre à peu près 1,4 degré supplémentaire. Et il est précisé toujours dans ce rapport que sans réduction majeure des émissions, les températures moyennes globales pourraient augmenter de 5 degrés ou plus avant la fin du siècle. Donc ça risque d'entraîner effectivement des modifications profondes des écosystèmes. Autre élément, la question des océans. Le niveau global des océans a grimpé en moyenne de 18 à 20 cm depuis 1900, dont près de la moitié depuis 1993. C'est l'accroissement le plus rapide en 100 ans depuis au moins 2800 ans. Et le document indique qu'à l'horizon 2100, une hausse de 20 cm ne peut pas être exclue. Alors pour les différents scénarios, là, vous voyez un petit peu sur ce schéma les différents scénarios du GIEC, d'ici 2100, les prévisions de montée moyenne du niveau de la mer se répartissent approximativement autour de 70 cm. Le GIEC fait toujours des prévisions basses, moyennes et hautes. Et donc l'élévation probable du niveau moyen mondial de la mer serait comprise entre 26 et 55 cm pour le scénario le plus optimiste, et il pourrait dépasser 1 mètre pour le scénario, semble-t-il, quand même assez probable. Alors les dernières années ont vu un nombre record de phénomènes météorologie extrême. C'est comme ça que se manifestent principalement les changements climatiques. Ce sont des sécheresses, des incendies, des ouragans, des fortes précipitations. Et cette tendance devrait sans doute persister durablement selon les scientifiques. Par exemple, pour vous donner aussi une idée des conséquences de ces catastrophes, les événements climatiques extrêmes ont coûté 1100 milliards de dollars depuis 1980 aux États-Unis. Au niveau mondial, on l'estime à 3000 à 4000 milliards. Alors, les auteurs du rapport ont craint à un moment donné que l'administration Trump ne s'oppose à sa publication, et des sénateurs avaient d'ailleurs écrit à Trump pour que le rapport soit, je les cite, « protégé de toute interférence politique ». Et même si les climato-sceptiques ont l'oreille de Trump, on s'aperçoit qu'une bonne partie de son administration reste encore sur les lignes défendues jusqu'à maintenant par Barack Obama. Alors, on pourrait dire que les climato-sceptiques n'ont plus vraiment la cote. Une étude réalisée cette année et qui se base sur 5 enquêtes réalisées sur la littérature scientifique entre 1991 et 2015, et sur plus de 50 000 articles, affirme que le niveau de consensus scientifique autour du changement climatique lié à l'activité humaine est de 99,94%. Donc on parle beaucoup des climato-sceptiques, mais dans sa très grande majorité, la communauté scientifique est d'accord sur les conclusions et sur les causes des changements climatiques. Donc les climato-sceptiques n'ont plus la cote, et juste avant aussi la COP23, l'organisation internationale Oxfam a publié aussi un rapport intitulé « Les déracinés par le changement climatique ». Elle estime que plus de 23 millions de personnes ont été contraintes de fuir leurs terres et leurs foyers l'année dernière, à la suite, bien sûr, de catastrophes dites naturelles extrêmes. Sur la période 2008-2016, ce sont en moyenne 20 millions de personnes qui ont dû chaque année quitter leur cadre de vie. Et pourtant, cette question ne figurait pas à l'ordre du jour de la COP23. Mais elle s'est invitée dans la mesure où la présidence était assurée par les Fidji. Et ce pays, comme les autres États insulaires du Pacifique, sont, vous le savez, confrontés à un problème, à un processus de submersion de leurs terres. Et donc l'existence même des atolls à travers le monde, comme Kiribati, Tuvalu ou les îles Marshall, est tout bonnement menacée. Et puis les prévisions sont quand même assez alarmantes. Un groupe de scientifiques qui s'est penché sur la question estime que plus de 1 milliard de personnes pourraient migrer d'ici la fin du siècle en raison du réchauffement climatique. Autre étude qui a été menée par les chercheurs du MIT, le Massachusetts Institute of Technology, estime que d'ici la fin du XXe siècle, l'Asie du Sud pourrait être invivable. En cause des vagues de chaleur extrêmes associées à un fort taux d'humidité. Du côté de l'Europe, un réchauffement climatique de l'ordre de 3 degrés C provoquerait 152 000 décès par an contre 3 000 aujourd'hui. Et donc ces vagues de chaleur mortelles pourraient même se produire d'ici quelques décennies dans des régions de l'Inde, du Pakistan ou du Bangladesh, y compris dans les bassins fertiles de l'Indus et du Gange, qui sont évidemment des régions très importantes sur le plan de la production alimentaire, agricole. Et donc, si le réchauffement climatique n'est pas contenu d'urgence et si des mesures d'adaptation appropriées ne sont pas prises, environ 350 millions d'Européens pourraient être exposés tous les ans à des phénomènes climatiques dangereux d'ici la fin du siècle. Toujours début novembre, et là, vous en avez un texte intégral, plus de 15 000 scientifiques de 184 pays ont publié un manifeste pour alerter les décideurs politiques sur la dégradation rapide de l'état de la planète et sur la menace qu'elle fait peser sur l'espèce humaine. Le texte qui a été publié dans la revue Bioscience enjoint aux décideurs de tout mettre en œuvre pour freiner la destruction de l'environnement. et éviter que ne s'aggrave l'épuisement des services rendus par la nature à l'humanité. J'en ai mis un extrait, mais là vous l'avez dans sa version complète. Pour éviter une misère généralisée et une perte catastrophique de biodiversité, l'humanité doit adopter une alternative plus durable écologiquement que la pratique qui est la sienne aujourd'hui. C'est seulement la seconde fois que la communauté scientifique publie une mise en garde solennelle à l'endroit des décideurs politiques. La première, c'était juste avant Rio en 1992, donc l'appel de Rio, qui précédait l'ouverture de la première COP. Alors, on voit sur ce schéma que les principaux pays pollueurs sont les États-Unis, la Chine d'abord maintenant, les États-Unis effectivement et l'Inde. Et on voit aussi que l'activité d'une centaine de sociétés représente à peu près 25% des émissions de gaz à effet de serre. On pourrait ajouter à cela que 10% de la population mondiale émet 50% des gaz à effet de serre. Et qu'inversement, 50% de la population mondiale n'émet que 10%. Et donc on voit aussi une disparité très forte entre les classes favorisées et les classes évidemment les plus pauvres. Alors, l'accord de Paris, vous avez forcément beaucoup entendu parler de la COP21. On peut le résumer en quelques points. Le souhait de la communauté internationale de limiter l'élévation de la température mondiale à moins de 2 degrés C. Essayer d'arrêter au plus tôt, arriver au plus tôt au pic des émissions de gaz à effet de serre. On a parlé notamment de 2020-2025. On a beaucoup parlé aussi, bien sûr, du financement, de la finance climat, comment aider les pays, notamment insulaires, et les pays les plus touchés par les changements climatiques, pour leur permettre de s'adapter aux évolutions à venir. On a aussi mis en place un système qui va permettre d'évaluer tous les 5 ans les engagements des États et voir comment on peut aussi augmenter ou réévaluer ces engagements. On a parlé aussi dans l'accord de Paris des pertes et des préjudices. J'en reparlerai tout à l'heure parce que c'est une question qu'on a beaucoup abordée à la COP23. Et puis, bien sûr, aussi le prix du carbone, c'est-à-dire comment faire payer, en quelque sorte, donner un prix au carbone et faire payer, effectivement, les pollueurs. Et donc, l'accord de Paris, on s'est donné 3 ans, un peu moins de 3 ans, pour le transcrire dans des orientations que les États, après, devront adopter. Alors, les populations victimes ou menacées de déplacement attendent, bien sûr, un soutien de la communauté internationale pour financer leur stratégie d'adaptation aux effets du changement climatique. Elles espèrent aussi que le mécanisme financier dit de pertes et dommages, prévu par l'accord donc de Paris, se précisera et aboutira au plus vite un système d'indemnisation des pays les plus vulnérables au dérèglement du climat. L'ONU Environnement, qui est l'ancien PNUE, a sonné l'alerte sur les efforts très insuffisants des États pour contenir le réchauffement climatique. À ce jour, il existe un écart très important entre les engagements pris par les États pour réduire, bien sûr, leurs émissions de gaz à effet de serre et les efforts nécessaires pour respecter l'accord de Paris, à savoir donc contenir la hausse de température nettement en dessous de 2 degrés C par rapport au niveau pré-industriel. Donc la bataille du climat n'est pas encore perdue, mais elle est en tout cas très mal engagée. Certes, une bonne nouvelle semble quand même se confirmer. Les émissions mondiales annuelles de CO2 issues de la combustion des ressources fossiles, donc charbon, pétrole, gaz, et de l'industrie cimentière, se sont stabilisés depuis 2014. Cela s'explique par une moindre croissance du recours au charbon en Chine, mais aussi aux États-Unis, qui sont donc, on l'a vu tout à l'heure, les deux plus gros pollueurs de la planète, et par l'essor des filières renouvelables, à commencer par le solaire, particulièrement d'ailleurs en Chine et en Inde. Mais il faut être très prudent parce que cette tendance pourrait s'inverser si la croissance de l'économie mondiale s'accélère. On est très loin encore de la baisse drastique des émissions indispensables pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Les engagements pris en 2015 par les 195 pays parties prenantes donc, de l'accord de Paris, actuellement 169 hein, l'ont ratifié, ben, ne permettront d'accomplir approximativement qu'un tiers du chemin. Donc on a présenté l'accord de Paris comme un succès diplomatique, certes, mais malheureusement, les engagements ne sont pas à la hauteur des objectifs qu'il faudrait atteindre. Alors, à supposer que tous les États respectent l'intégralité donc, de leurs promesses, parfois conditionnées à l'obtention hein, de financements internationaux et de surcroît non contraignantes, eh bien, la Terre s'achemine aujourd'hui vers une hausse du thermomètre de 3 à 3,2 degrés à la fin du siècle. Et donc, sans effort supplémentaire d'ici 2030, l'humanité aura consommé 80% de son budget carbone, c'est-à-dire la quantité de CO2 qu'elle peut encore relâcher dans l'atmosphère sans dépasser 2 degrés de réchauffement. Ce qui veut dire qu'il y a effectivement maintenant une urgence vitale. Alors le climatologue Jean Jouzel, qui est ex-vice-président du groupe de travail scientifique du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, donc le fameux GIEC, dit quant à lui que les premiers bilans des politiques nationales montrent que globalement, on est en dessous des engagements pris à Paris, et sans les États-Unis, qui se sont donc bien sûr retirés de leur accord, de l'accord de Paris, il sera très difficile de demander aux autres pays de rehausser évidemment leur ambition. Et donc, en tout état de cause, il dit, on reste très loin du compte. Pour garder une chance de rester sous les 2 degrés C, il faudrait que le pic des émissions soit atteint en 2020 au plus tard. 2020, bon, c'est demain, c'est dans 2 ans. Alors, la COP23 est présidée par les Fidji, mais c'est l'Allemagne qui a accepté d'assurer la logistique et l'accueil, puisque les Fidji ne pouvaient pas accueillir 22 000 personnes. C'est les fameux délégués des 196 pays de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, mais aussi les observateurs et les journalistes qui étaient là en très grand nombre. La prochaine COP, d'ailleurs, aura lieu en Pologne, plus précisément dans une ville de Silésie, dont l'économie tourne autour du charbon. Donc c'est vrai que ça donne une image quand même tout à fait intéressante, tout un symbole pour les négociations climat. Alors, une trentaine de chefs d'État et de gouvernement étaient présents à la COP23, le mercredi 15 novembre. Parmi ceux-ci, Emmanuel Macron et Angela Merkel, les deux seuls représentants du G7. Ils ont réaffirmé les engagements de l'accord de Paris. La chancelière, quant à elle, a insisté sur la nécessité que les pays riches financent l'adaptation des pays les plus démunis au changement climatique. Elle a promis notamment que son pays ajouterait 50 millions d'euros au fonds mondial créé dans ce but. Et le président Macron a plaidé pour que l'Europe assure un leadership sur les questions climatiques en assurant que l'Europe et la France financeront le GIEC suite, bien sûr, au désistement, au retrait des USA qui, jusqu'à maintenant, le finançaient en grande partie. Alors la COP23 a permis de commencer à préciser un ensemble de dispositions de ce qu'on appelle le « rule book ». C'est une sorte de guide de mise en œuvre de l'accord de Paris qui se donne comme objectif de ne pas dépasser donc cette fameuse augmentation de 2 degrés C de la température moyenne de la planète. Ce guide devrait, en principe, être adopté lors de la COP24. Il précisera notamment les modes de comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre, évidemment pour chaque pays, les règles aussi de transparence des données échangées entre les pays, et puis, bien sûr, les engagements financiers des États et le suivi de ce qu'on appelle les finances climat. Alors, les négociations à Bonn, pendant la COP23, ont buté sur plusieurs obstacles. Tout d'abord, le non-respect des objectifs de réduction d'émissions fixés par le protocole de Kyoto, dont la deuxième phase d'engagement pour la période 2013-2020 n'a toujours pas obtenu le nombre de ratifications nécessaires pour entrer en vigueur. Donc c'est toujours pareil, on fait des accords, on signe des accords, mais on ne les met pas en application. Le deuxième point, c'est le manque d'engagement de la communauté internationale pour venir en aide aux États insulaires et plus largement aux pays les plus vulnérables aux impacts du changement climatique. L'accord de Paris, on en parlait tout à l'heure, prévoit un volet pertes et préjudices, en fait une compensation pour les dégâts provoqués par les ouragans, les inondations, ou des phénomènes d'ailleurs plus longs comme la montée des eaux, mais aussi la salinisation des terres agricoles. Les délégués de la COP23 ont accepté la tenue d'un dialogue d'experts. Quand on n'arrive pas à résoudre le problème, on fait une nouvelle commission et on met en place un nouveau dialogue, hein, sur le sujet en 2018. Bon, comme ça, ça permet de gagner une année. Mais aucune perspective ne permet d'envisager à terme un financement de ce mécanisme. Et puis, évidemment, l'obstacle principal, c'est le non-respect, j'ai bien dit, le non-respect d'anciennes promesses financières des pays industrialisés. Donc on ne parle même pas de mobilisation de nouveaux fonds, c'est-à-dire le non-respect d'anciennes promesses. Alors cependant, il faut rester positif, les participants ont quand même relevé quelques points positifs pendant cette COP23. L'adoption d'un programme de travail sur l'agriculture et la sécurité alimentaire dans les négociations climatiques. Jusqu'à maintenant, ça ne faisait pas partie. L'adoption d'un plan d'action en faveur de l'égalité des sexes. Et puis, les pays les moins avancés, dont la plupart des membres sont d'ailleurs des pays africains en Afrique, ont également salué les avancées, notamment celles concernant la plateforme sur les communautés locales et les peuples autochtones. Et cette dernière permettra notamment à ces populations de mettre leurs connaissances de la nature au service de la lutte contre le réchauffement climatique. Un autre point positif est la structuration des coalitions dont l'accord de Paris avait posé les principes. C'est-à-dire que les États, mais aussi des régions ou des villes, peuvent créer une coalition qui porte sur une question spécifique. Alors ainsi, l'Alliance pour la sortie du charbon a été créée récemment, je crois tout début novembre, par le Royaume-Uni et le Canada. Et elle compte parmi ses membres l'Angola, la Belgique, la Finlande, la France, l'Italie, mais aussi plusieurs États américains et provinces canadiennes, comme Washington, l'Alberta, la municipalité Vancouver. Les membres de cette alliance s'engagent à supprimer leurs centrales au charbon, suivant un calendrier qui leur est propre. Pour la France, ce sera 2022. Pour le Royaume-Uni ou le Canada, 2030. Mais évidemment, les plus gros pollueurs, la Chine et l'Inde, ne font pas partie de cette alliance. Ensuite, le fonds vert. Alors le fonds vert pour le climat, c'est un mécanisme financier de l'ONU qui est rattaché à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Et il a évidemment pour objectif de réaliser le transfert de fonds des pays les plus avancés à destination des pays les plus vulnérables afin de mettre en place des projets pour combattre les effets négatifs des changements climatiques. Alors le but fixé par les États à la COP de Lima en 2010, donc ça remonte il y a 7 ans, était de réussir à financer le fonds à hauteur de 100 milliards de dollars par an d'ici 2020. Là, vous voyez les 5 plus gros contributeurs. Ça totalise, actuellement, le fonds mobilise à peu près 10 milliards de dollars. On peut dire mobiliser, car une partie des fonds des États-Unis vont être... les États-Unis vont reprendre une partie des fonds qu'ils avaient promis. Donc la France est le 5e contributeur au fonds vert, qu'elle s'est donc engagée à apporter un peu plus d'un milliard de dollars. Mais bien sûr, on est très très loin du compte. Enfin, deux points qui étaient importants pour les délégations africaines et qui ont fini par faire consensus, à savoir le transfert de tutelle du fonds d'adaptation du protocole de Kyoto vers l'accord de Paris, et puis aussi la transparence sur les engagements financiers futurs des nations développées vis-à-vis des pays en développement. C'est le fameux point discuté, un point crucial discuté lors de l'accord de Paris. Alors, pour le négociateur en chef de l'Afrique, c'est une COP qui a eu des résultats acceptables, eu égard aux enjeux et à l'urgence de la situation. Et je vous ai mis une de ses citations, un extrait de son discours. « En tant que négociateur, nous avons fait tout ce que nous avons pu. » Mais ce n'est pas en adéquation avec nos ambitions et ce n'est certainement pas en adéquation avec les réalités et, encore une fois, l'urgence de la situation. Il aurait fallu, par exemple, qu'on lance des négociations sur le processus qui aboutirait aussi à la cible qui doit remplacer aussi les 100 milliards qui sont convertis maintenant en 10 milliards du fonds vert en 2025. Parce que la question, effectivement, du financement se pose aujourd'hui, mais elle va se poser de façon de plus en plus aiguë au cours des prochaines décennies. Donc voilà ce qu'on peut dire un petit peu de façon résumée sur la COP23. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec des négociateurs qui ont mentionné le côté évidemment très technique maintenant des négociations. La COP21, c'était des accords, on va dire, politiques avec les chefs d'État. Et maintenant, on entre effectivement dans le dur. Et les négociations sont quand même très, très difficiles parce que les textes sont tous négociés évidemment en anglais, avec des délégations qui n'ont pas toujours aussi la possibilité d'avoir des experts qui les assistent. Et donc les pays les plus vulnérables et les moins organisés, évidemment, ont du mal évidemment, à peser évidemment, sur ces négociations. Les États-Unis ont adopté une position neutre, hein, ce qui est déjà une première avancée. Hein. Et puis, évidemment, la Chine occupe maintenant une place importante et très influente, hein, notamment avec les pays les moins avancés. Et puis, on espère que l'Europe va jouer maintenant un rôle un peu plus important compte tenu du retrait, évidemment, des États-Unis de cette dynamique. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui sur la COP23. Il faudra, comme je l'ai dit tout à l'heure, encore des semaines ou des mois, c'est-à-dire pour en tirer tous les enseignements. Mais je disais, il y a quelques semaines, on avait une réunion d'initiative climat au Bénin, et je disais à l'auditoire, vous savez, la COP21, on l'a toujours présentée comme un succès. Bon. C'était un succès diplomatique, parce que c'est vrai qu'en très peu de temps, on a signé un accord, 169 États l'ont ratifié, donc ça ne s'est jamais vu, effectivement, dans l'histoire des conventions et des accords internationaux. Mais c'était un échec pour l'humanité, parce que les engagements qui ont été pris ne sont pas à la hauteur, effectivement, du problème. Et surtout, eh bien, les promesses qui ont été faites ne sont, on vous l'a dit tout à l'heure, que rempli au tiers. Hein, on n'a fait qu'un tiers du chemin si on respecte encore ces accords. Donc là, on est quand même dans une situation qui est... Moi, j'aime pas faire de catastrophisme. On est quand même dans une situation extrêmement, extrêmement délicate. Et à côté des négociations, de tout ce processus qui est absolument indispensable, on a besoin que les États, effectivement, se mettent d'accord sur des orientations précises et tiennent leurs engagements. Il faut une mobilisation à toutes les échelles du territoire. Et ce qui est intéressant, effectivement, dans les COP, c'est qu'en marge des négociations officielles, il y a une foultitude d'acteurs qui sont présents. Alors, c'est bien sûr les entreprises. Alors, jusqu'à la COP21, notamment les entreprises pétrolières défendaient encore la cause du fossile. Aujourd'hui, ça commence à être mis en cause, remis en cause fortement. Les entreprises comme Total, par exemple, investissent beaucoup hein, dans le solaire. Ils ont racheté notamment des grandes sociétés aux États-Unis dans le domaine du solaire, dans le domaine des batteries, etc. Alors bien sûr, ça ne représente que 15% de leurs investissements par rapport à l'ensemble de leurs investissements dans l'activité pétrolière. Mais ils sont conscients qu'il faut explorer de nouvelles voies. Hein. Il y a quand même des alternatives qu'il faut, des voies alternatives qu'il faut développer. Alors, il y a les entreprises, il y a les collectivités. Les collectivités commencent à être très, très bien organisées. Et on voit notamment, grâce aux coalitions, les collectivités s'impliquer dans des problématiques qui sont pourtant internationales, mais qui les concernent. Et c'est vrai que les choses avanceront plus vite au niveau des territoires qu'au niveau des États. Donc, les collectivités prennent un poids de plus en plus important. Et j'espère qu'on en parlera ce soir. Et puis après, bien sûr, les organisations de la société civile, les institutions spécialisées, qui intègrent maintenant dans leur stratégie d'action eh bien, la donnée effectivement climatique. Et la donnée climatique, on ne peut pas la traiter sans parler, moi, ce que j'appelle le développement humain, le développement durable, enfin, etc., tous les autres éléments. On voit bien que les changements climatiques vont affecter la production alimentaires vont affecter, vont modifier les modes de transport, sont très liés évidemment avec les questions de production d'énergie, etc. Donc c'est vraiment un thème, je dirais, qui est majeur et sur lequel on peut greffer tout un ensemble d'éléments indispensables au développement local et mondial. Voilà, j'ai tenu mon temps.
Je vais prendre 2 secondes la parole parce que j'avais invité comme intervenant sauvage libre dans la salle un représentant du monde de la gestion. Parce que dans ce que dit Benoît à l'instant, il y a une chose qui est claire, c'est que le niveau d'expertise ou de connaissance des problèmes est devenu tel que de plus en plus d'États ou de collectivités se décrochent par rapport aux discussions et aux négociations. Il y a une chose qui est évidente, c'est que l'appréciation que l'on fait actuellement des questions climatiques et des alternatives, c'est une appréciation qui est économique et financière et qui est beaucoup une appréciation qui est liée à un terme qui est ancré dans le monde industriel et économique, c'est le retour sur investissement. Si vous faites un calcul et que vous mettez pour 15 000 euros de matériel alternatif en termes d'énergie sur votre maison et que ça vous fait économiser 300 euros par an, vous allez faire le calcul comme moi. Là, c'est domestique. Mais quand on parle de l'industrie, on se retrouve dans une autre configuration. Et il y a quelque chose que Laurent Fabius est venu en parler voici un an lors de son retour sur COP21. Il y a une chose qui a été évincée des discussions, c'est les externalités. C'est-à-dire combien coûte l'atteinte à la biodiversité, combien coûte le traitement supplémentaire des eaux suite à l'usage d'intrants dans l'agriculture, etc. etc. Donc tant qu'on reste au coût direct, le retour sur investissement, il est tellement gigantesque qu'un simple calcul que je qualifierais de rationnel, a fortiori dans la période actuelle où il y a des problèmes financiers un peu partout, un simple calcul que je qualifierais de rationnel et qui est purement arithmétique, ne permet pas d'étayer un discours sur le fait que ces alternatives, le retour sur investissement est peut-être long, mais il impacte autre chose que la simple dimension matérielle de nos vies ou de nos activités. Et c'est là, dans ce que dit Benoît, moi j'avais été surpris que les collectivités territoriales à la COP21 n'aient pas réussi à faire davantage monter en puissance leur niveau de proximité comme étant un levier favorable aux choses. J'en veux pour preuve que dans ce qui s'est passé avec l'administration Trump, pour aller dans un état pétrolier américain, c'est-à-dire la Louisiane depuis 1987, je me suis rendu compte à quel point les collectivités territoriales louisianaises se sont impliquées autour de leur maire sur un certain nombre de choses. J'en veux aussi pour preuve ce que vient de terminer en termes de plan la ville de Pittsburgh, qui est pourtant une ville qui a des taux de pollution gigantesques liés à son histoire industrielle. Bref, si je dis ça, c'est qu'il y a des écueils liés à un certain nombre de critères que l'on a culturellement très ancré dans nos têtes, qui sont des critères de calcul à court terme. Le long terme et les externalités, c'est-à-dire l'impact, l'avenir que l'on propose aux générations futures, ne fait absolument l'objet d'aucun même chiffrage, hein, je veux dire, c'est possible. Dernier aspect, c'est la dimension de l'éducation, qui, moi, m'interroge, encore une fois, confère la conférence de Laurent Fabius dans cette ville, voici une dizaine de mois ou un an, je ne sais plus, où la dimension éducative qui avait été prévue comme étant une clé, un levier, n'a été que peu abordée et a ensuite disparu des discussions. Alors la COP23, je crois que, enfin moi j'ai pas tout suivi, mais j'ai pas vu. Or, il est clair, et peut-être que notre ami Christian Grandseigne pourra dire tout à l'heure un mot du travail qui a été fait au sein du rectorat sur des appels à projets, que je trouve très intelligent sur environnement et développement durable, sur des projets très concrets dans les établissements, la clé de voûte de l'éducation ne réapparaît plus dans les informations ou les items. Je n'ai pas tout vu de la COP23. Or, il est clair que si l'accès à la connaissance il n'est pas entouré d'une capacité intellectuelle, culturelle, éducative, initiale et tout au long de la vie, il y a tout un tas de choses qui peuvent être racontées. Juste, quand tu as dit tout à l'heure les climato-sceptiques ne sont plus parmi nous, je vous rappelle que depuis une dizaine d'années, via les réseaux sociaux, tout et son contraire est véhiculé. Moi, je travaille avec mes collègues de la culture scientifique sur un repérage des réseaux qui véhiculent des choses inexactes, fallacieuses, voire plus. Et je vais vous raconter une anecdote. Quand Claude Allègre est allé avec un certain nombre de nos collègues au Chili, voici 4 ans, faire une série de conférences dans un endroit que je connais bien. Claude Allègre, donc, indépendamment de la crise cardiaque qu'il a fait ce jour-là, s'est retrouvé primé par un site créationniste américain comme étant, en tant que climato-sceptique, le plus près de leur idéologie. Donc on voit bien qu'on monte d'un cran et que la question idéologique a été évacuée alors qu'on l'a retrouvée dans les discussions des COP initiales comme étant une discussion qui permettait aussi de remettre en cause un certain nombre d'éléments. Et dans les discussions, la question des modes de production ont été évincés. Donc on est sur des choses qui ne nous permettent pas de sortir par le haut et de donner des éléments d'espoir, encore une fois, à des acteurs qui pourraient, quand on écoute ton discours, Benoît, et on sait que tu es quelqu'un d'optimiste et d'actif, on peut se demander, pour des gens qui sont un peu plus pessimistes et un peu moins actifs, quel pourrait être leur discours par rapport à des conférences, des parties comme celle. Donc, Il y a au sein de l'éducation, il y a au sein de la recherche et il y a au sein de la culture qu'on a autour de ça un certain nombre d'éléments sur lesquels il faut revenir. J'aimerais avoir ton avis là-dessus, justement. Toi qui as la chance d'avoir une vision sur 20 ou 25 ans de COP.
Alors, on parlait tout à l'heure du premier rapport des scientifiques qui est sorti juste avant Rio. Et donc, qui a quand même été assez éclairant pour les chefs d'État, enfin ceux qui ont rédigé la déclaration de Rio et puis l'agenda 21. Mais en fait, ce rapport a ensuite été dénoncé par précisément des scientifiques nord-américains. Et il y a eu toute une bataille idéologique jusqu'au milieu des années 90. Et les climato-sceptiques ont eu effectivement un champ libre, je dirais, sur cette question-là. Donc maintenant, la COP23, on n'a pas du tout entendu parler des climato-sceptiques. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un journaliste de temps en temps qui relaie telle ou telle opinion, etc. Et évidemment, le président Trump est encore entouré de ce genre de personnages. Mais le débat est pratiquement clos, je veux dire, là-dessus. Et aux États-Unis, compte tenu aussi des événements récents, des catastrophes dites naturelles, évidemment, ce type d'argumentation a quand même des limites. Quoi. La question de l'éducation, oui, c'est vrai que la question de l'éducation, on en parlait beaucoup dans les années 90, début des années 2000. Et maintenant, c'est un peu le parent pauvre. C'est un peu le parent pauvre. Il faut quand même reconnaître, effectivement, que les médias font quand même un travail assez remarquable sur ces questions-là. Je ne sais pas comment vous avez vécu la COP23 à travers les médias français. Je ne sais pas si on a beaucoup entendu parler. Moi, je ne les ai pas suivis, en tout cas. Mais quand même, c'est un sujet qui est quand même assez largement traité sous différents angles. Bon. Donc ça, c'est quand même une avancée assez intéressante parce qu'on a besoin effectivement de journalistes. Bon, les journalistes spécialisés, sauf dans certaines revues, ont disparu. Donc on a besoin que les journalistes, on va dire généralistes, s'emparent de cette question. Et c'est le cas aujourd'hui. En tout cas, il y a une couverture médiatique au niveau international très importante. Les COP, c'est quand même des milliers et des milliers d'équipes, de journalistes, de télé, de radio. Donc voilà, l'information, en tout cas vers le public, passe. Mais les questions effectivement d'éducation, c'est un petit peu le parent pauvre effectivement des COP, parce que vraiment, il y a d'autres urgences à traiter.
Est-ce qu'il y a des réflexions, des remarques de votre part immédiatement après ces... Jean-François.
Sauf le grand blond, mon Donald, mais tout le monde dans le monde connaît dans sa vie personnelle ou la vie de sa communauté des faits qui se rapportent au changement climatique, ce qui n'était pas forcément flagrant il y a encore 10-15 ans, sauf quand on était viticulteur, par exemple. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je pense que la notion d'éducation, moi c'est ma vision, c'est plus une éducation pour faire connaître les phénomènes, mais une éducation certainement plus complexe, et là, Didier, je te rejoins, donc elle est impérative pour agir, réagir et non pas laisser tout tomber. Parce qu'on n'est plus au domaine de prendre conscience, on est au domaine de faire. Et ça, c'est la partie la plus dure de l'éducation. Et à ce titre-là, elle devrait être beaucoup plus confortée. Le deuxième point, dans les choses qui vont bien, si je puis dire, ou en tout cas qui devraient servir de levier, c'est le monde de la réassurance, très peu connu en France, puisque originellement, les réassureurs sont anglo-saxons, principalement basés à Londres. Mais les réassureurs, depuis des années, et particulièrement depuis 2 ans, dans tout ce qu'ils écrivent, ils montrent les scénarios dans leur position haute du GIEC, parce qu'eux ne savent qu'ils vont bientôt plus pouvoir réassurer. Et je trouve que ce serait un jour intéressant d'arriver à échanger et à faire parler des réassureurs, parce que la vérité des catastrophes dites naturelles, ils la connaissent. Et je signale au passage que depuis 6 mois, donc la Fédération internationale des réassureurs a exprimé clairement dans des papiers à l'adresse des grandes compagnies d'assurance qu'il est peut-être des champs qui pourraient ne plus être couverts.
Christian, est-ce que tu pourrais dire un mot là de ce que tu mènes au sein du rectorat de Poitiers,
parce qu'il faut aussi parler de ce que je mène, non, parce qu'a priori, je dirais que c'est un engagement un petit peu, c'est un engagement assez vaste au sein de l'éducation nationale, en tout cas, sur les problématiques d'éducation au développement durable, puisqu'a priori, on est passé d'une logique d'engagement, on va dire d'individuel, à une logique qui s'inscrit complètement maintenant dans les programmes scolaires, avec deux volets. Qui sont assez nettement mis en évidence. Un premier volet de s'approprier les questions de lutte contre le changement climatique, et le deuxième volet qui serait de s'intéresser aux questions d'adaptation. C'est-à-dire les deux volets vraiment importants, en tout cas, de l'action. Là, je suis tout à fait d'accord. A priori, on ne discute plus maintenant de l'objet en lui-même, mais de ce qui peut être fait. Juste signaler que on met en place un système de repérage des établissements qui s'engagent dans des démarches de développement durable. Et là aussi, c'est intéressant de l'associer à cette idée de territoire, puisqu'a priori, on a des établissements en démarche de développement durable qui sont identifiés et qui sont labellisés assez régulièrement sur le territoire. Je pense que ces établissements ont beaucoup plus de facilité quand les collectivités territoriales portent des projets spécifiques. Là, pour en guise d'exemple, il existe demain, hein, il y a une réunion prévue sur les 3 académies, Limoges, Poitiers et Bordeaux, sur la question du gaspillage alimentaire, par exemple. Donc là, quelque part, il y a un regroupement d'expériences, et ce genre de groupement se fait au niveau des conseils vie lycéenne. C'est-à-dire que ce sont des élèves qui se mobilisent sur cette question. Et ces conseils vie lycéenne, donc, qui sont des instances prises en main par les élèves, sont complètement investis dans plusieurs académies. Et donc, ce sont elles qui accompagnent ce genre de démarche dans les établissements. Donc, l'aspect, en tout cas, action, est tout à fait évidente. Elle est accompagnée. Et l'aspect éducation reste, puisque maintenant, les problématiques d'éducation au développement durable sont intégrées dans les programmes scolaires. C'est-à-dire que les deux parties sont fondamentalement liées à l'intérieur des établissements.
Oui, je voudrais revenir, Benoît, sur la présentation que tu nous as fait de la situation telle qu'elle est, pour mettre en évidence une différence. J'ai regardé une émission sur Arte la semaine dernière, je crois, où il y a peut-être 15 jours, qui, suite à la demande d'Al Gore, les services secrets américains et russes ont échangé toutes leurs informations depuis des lustres, puisqu'ils prenaient plein de photos, donc ça veut dire qu'ils ont vu l'évolution en particulier du Groenland, mais de tout, enfin de toute la surface de la Terre. Et à la fin de cette émission, ils interrogeaient un des pontes des océanographes donc américain, et qui disait si le Groenland fond, c'est pas de 70 cm que l'eau augmentera, c'est de 9 mètres. Et il ajoutait, et encore, que se passera-t-il si l'Arctique se met à fondre aussi? Donc voilà, donc ça c'est. Alors ceci dit, sur les autres points, ils étaient globalement en accord, y compris en signalant d'ailleurs que dans les années 2009-2010, il y a eu des grandes sécheresses au Moyen-Orient, ce qui a entraîné les déplacements de population en Syrie et qui a entraîné les événements qu'on connaît maintenant. Enfin, en tout cas, pour eux, c'était évident que c'était lié à ça. Donc, est-ce que, enfin, par rapport à cette différence-là, est-ce que tu as des éléments d'appréciation ou pas ?
Il y a effectivement des simulations qui ont été faites. On voit d'ailleurs des cartes animées qui montrent justement les conséquences en cas d'augmentation importante des eaux. Pour le moment, on s'en tient au rapport officiel effectivement du GIEC. Alors, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres études qui ont été faites. Vous savez qu'il y a un processus qui est quand même assez long et puis sérieux pour que le GIEC, il faut quand même que la communauté scientifique soit d'accord sur l'ensemble de ses conclusions. Après, on peut faire beaucoup de scénarios possibles, imaginables. Ce que tu dis, bon, en est un. Espérons qu'on n'arrive pas là. Mais voilà, c'est aussi une probabilité. Et il y a des simulations qui ont été faites dans ce sens, ouais, effectivement. Mais il faut faire très, très attention. C'est-à-dire qu'à ce jour, l'élévation du niveau de la mer n'est pas due à la fonte des glaces. Il est dû au réchauffement de l'eau et donc l'augmentation du volume effectivement de la masse océanique. Hein, c'est le principal facteur. Si effectivement un jour les glaces fondaient, ça ce serait effectivement un autre des impacts beaucoup plus importants. Oui. Et pour rebondir un petit peu ce qu'on disait sur les questions de l'éducation, moi je me pose toujours la question et j'ai pas de réponse. On l'a peut-être. C'est comment arriver à même parler de sensibilisation. Hein, comment déjà arriver à sensibiliser les gens, donc évidemment à les éduquer, ça sera encore mieux, sur des questions pour lesquelles il n'y a que des impacts, les principaux impacts sont des impacts à long terme. Voilà. C'est-à-dire qu'on va sortir de cette salle, hein, on va reprendre notre voiture, on va retourner chez nous, il n'y aura pas eu beaucoup de changements, il n'y aura pas eu beaucoup d'impact immédiat sur le changement climatique. D'accord. Hein. Sauf que si on fait la même chose dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, et simulé par 3, par 5, par 10, hein, là, les impacts vont être réels. Mais comment arriver à mobiliser l'ensemble des acteurs, évidemment le citoyen à la base, mais tous les acteurs, autour d'un phénomène qu'on sait maintenant inéluctable, hein, alors avec différents scénarios, etc., et conséquences possibles, mais qui sont encore des impacts pour les pays industrialisés, pour les pays riches, qui sont encore des impacts à moyen ou long terme. Bon. Ce qui n'est effectivement pas le cas, notamment pour les États insulaires et les pays d'Afrique, notamment, hein, et les subcontinents indiens, où là, on assiste maintenant à une diminution des rendements agricoles, à une perte effectivement de terres. J'étais l'année dernière en Guinée, parce que lorsqu'on parle des réfugiés climatiques, on pense toujours aux îles, globalement à l'Asie du Sud-Est. Là, j'étais en Guinée, et les gens disent, écoutez, ça y est, maintenant on a des réfugiés climatiques depuis quelques années, telle île était habitée, maintenant elle ne l'est plus, etc. etc. Donc on va avoir effectivement ce phénomène aussi de réfugiés climatiques, mais les conséquences, c'est la raréfaction des ressources en eau, hein, et donc avec tous les problèmes que ça peut poser, notamment pour l'agriculture. Donc là, on a déjà des impacts extrêmement importants. Quelqu'un parlait tout à l'heure effectivement de la vigne, c'est vrai, il y a tout un ensemble de professionnels qui se préoccupent de ces questions-là depuis longtemps, mais on ne sent pas encore les impacts au quotidien. Hein. Voilà. Donc comment arriver à sensibiliser l'ensemble des acteurs pour prendre des mesures immédiates, hein, par rapport à des phénomènes dont les impacts ne seront perceptibles que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Hein. Nous, on ne sera plus là en 2100, hein, mais on aura entre plus 3 degrés et plus 5 degrés. Alors, je ne sais pas ce que les futures générations penseront de nos attitudes, mais sûrement pas du bien. Bon. Voilà. Donc, voilà. Quels sont les éléments sur lesquels on peut agir pour sensibiliser tout un chacun et puis impliquer, je dirais, tous les décideurs économiques, politiques, dans le changement, enfin des mesures à prendre de façon immédiate. Quoi.
Sur le couplage entre Oui, sur le couplage entre l'éducation et l'adaptation et aussi les échelles de temps, il y a de plus en plus dans le discours ambiant au niveau de la communauté internationale la question de la résilience, des résiliences environnementales et sociétales qui sont mises en jeu. Et donc, alors, est-ce que la résilience, c'est-à-dire une adaptation qui soit pas forcément court-termiste, mais qui intègre dans les réponses qui peuvent être faites au changement climatique, des solutions qui soient justement durables, enfin, et qui permettent de pouvoir intégrer le long terme et de bons processus. Et c'est la question, enfin, à mon sens, la question de la résilience, elle intègre, elle nécessite aussi de le volet de passer par l'éducation, le volet éducatif. Mais je voulais savoir justement à la COP23 si la question de la résilience avait été mise en avant, des résiliences écologiques et sociétales. Parce que est-ce que ça a été mis en avant ou est-ce que ça a été tu un peu?
Disons qu'on parle dans le jargon des COP, on parle plutôt effectivement soit d'atténuation, soit d'adaptation. Alors, les pays industrialisés voudraient justement que les pays les plus pauvres atténuent, engagent des actions pour atténuer les effets du changement climatique, alors que les pays pauvres, eux, demandent des mesures pour l'adaptation. Sur le fonds vert, par exemple, actuellement, à peu près 80% des fonds, du montant du fonds vert, sont fléchés vers l'atténuation, parce que ce sont les financeurs qui le demandent. Alors que les pays africains en particulier demandent des moyens pour s'adapter, parce que les changements climatiques sont là. Bon, j'étais à Djibouti il y a 2 ans, dans le nord djiboutien, il n'a pas plu depuis 4 ans. Les gens ont perdu 80% de leurs troupeaux. Voilà. Donc il faut qu'ils trouvent des alternatives. Bon, lancer des actions pour atténuer les changements climatiques, ce n'est pas leur problème. Leur problème, c'est de s'adapter maintenant à une nouvelle situation. Voilà. Donc comment on fait face à l'avancée de la densification si on veut maintenir quand même des populations sur ces territoires-là? Il faut faire évoluer ses modes de vie, il faut voir évoluer ses économies. Donc c'est pour eux, c'est effectivement la priorité. Bon. Alors la résilience, oui, c'est-à-dire des écosystèmes. Bon, mais regardez par exemple l'océan. Maintenant, l'océan commence à s'acidifier à cause de l'absorption effectivement du CO2. Hein, l'océan absorbe plus de 50%. Du CO2 émis dans l'atmosphère, mais avec toutes les conséquences que ça va avoir effectivement sur l'écosystème. Bon. Donc la résilience a évidemment ses limites, qu'elle soit la résilience des écosystèmes ou la résilience effectivement des populations.
Si je peux me permettre, parce que la thématique de la résilience, c'est une thématique qui est extrêmement sensible et qui est à double tranchant. Alors je vais reparler du Chili, je suis désolé, mais je me retrouve au Chili à l'adresse d'un certain nombre de responsables chiliens qui avaient invité Boris Cyrulnik. Donc il y avait toujours l'inénarrable Claude Allègre à la tribune. C'était l'année d'avant, ça. Il y a eu un débat épistémologique, et vous allez voir, on retombe tout de suite sur notre quotidien. C'est-à-dire qu'il y a un moment où le psy, alors psychiatre, psychologue, quel qu'il soit, quand il parle de mécanismes qui sont individuels, voit son discours qui est repris par des gens qui globalisent les choses et qui l'appliquent à des systèmes. Et la question de la, puisque tu viens d'en parler, la question de la résilience appliquée à des domaines, d'ailleurs le philosophe Bruno Latour, quand il était venu à Sciences Po ici à Poitiers il y a 2 ans, en avait parlé. Peut-on parler de la résilience de la forêt? Peut-on parler de la résilience des océans? Pourquoi pas? Mais qui en rend compte? Alors, une fois qu'on a dit ça, on arrive à la deuxième partie du débat à laquelle j'ai assisté au Chili, qui était un débat éminemment culturel. Et derrière le mot résilience, il y a le mot fatalité et résignation. Parce qu'il y a des cultures qui existent toujours, qui, quelles qu'en soient les raisons, elles peuvent être d'ordre idéologique, religieuse ou alors plus profonde, ont autour de ces questions atténuation, adaptation, autour de ces questions d'adaptation, une façon de percevoir les choses, où grosso modo, c'est écrit, c'est comme ça, et on arrive à des thèses qui ont été largement débattues, toujours au Chili, hein, c'était dans un stade de basket, hein, il y avait 12 000 personnes, sur la sixième extinction, où vous avez un certain nombre de gens d'un certain nombre de pays qui disaient finalement on est dans un cycle naturel, pourquoi les hominidés seraient destinés à durer ad vitam aeternam et quid de leur place sur la Terre. Donc on arrive à partir de la résilience à tirer sur un fil qui est extrêmement délicat, parce qu'après on arrive à d'autres types de considérations, hein, hein, qu'on fait ce que racontait le vice-président du Sénat du Brésil, collègue de Christophe Mbouarque, qui est venu dans cet établissement voici quelques années, qui, par rapport à ça, expliquait qu'on pouvait reprendre les thèses de Darwin, et puis l'évolution animale pouvait s'appliquer aussi à l'évolution des sociétés. C'est-à-dire que c'est celles et ceux qui ont, en leur sein, développé des capacités d'adaptation qui vont s'en tirer, et pas les autres. Et qui prônait, lui, la création d'un gouvernement mondial par rapport à ça. Donc on voit bien que ça devient très compliqué au bout d'un moment, et que ce que disait Benoît, et c'est pour ça que la COP23 et la dimension territoriale, que moi j'ai mal vu apparaître, y compris dans la dimension éducation, hein, toujours pareil, me paraît être une façon de répondre à une partie de ce problème, en revenant sur la base territoriale, sur des communautés humaines qui arrivent à créer des alliances et des coopérations qui sont tangibles, parce qu'ils appliquent à travers ça une série de projets qui sont visibles et compréhensibles. Donc, je reviens là-dessus, hein, la question de la résilience, pour moi, elle est à double tranchant, et on n'en a pas tiré les conséquences. Dans cette salle, voici quelques semaines, un monsieur qui s'appelle Michel Brunet, paléontologue, a refait avec un de ses collègues du CEA, Gilles Rabstein, l'histoire de 4 milliards d'histoires de climat sur la Terre. Et on voit bien qu'on nous a annoncé des périodes où les 5 degrés de plus que tu annonces étaient largement dépassés. Voilà. Donc je ferme la parenthèse, mais cette question de la résilience elle mérite, à mon avis, un certain nombre de précaution, parce que, encore une fois, hein, quand on tire le fil de ce concept, on arrive à des choses qui sont quand même très compliquées, de mon point de vue, hein, du point de vue philosophique, par exemple, ou du point de vue démocratique. D'ailleurs, Pascal Accode, qui a écrit un livre qui s'appelle « Changement climatique et nouvelle misère », hein, donc, grosso modo, raconte ce que l'on sait intuitivement, mais lui, il le prouve de manière un peu plus posée et scientifique en tant que sociologue, c'est que ce sont les groupes sociaux les plus démunis, hein, on regarde ce qui s'est passé à la Nouvelle-Orléans après Katrina, qui sont les premiers touchés. Tout le monde est touché, sauf que ceux qui sont moins démunis s'adaptent et réorganisent leur vie dans des conditions complètement différentes. Donc, voilà. Donc moi, ce que je me dis, moi, je dirige un établissement qui s'appelle l'Espace Mondes France. À un moment ou à un autre, je suis obligé de constater que c'est par la connaissance, l'accès à la connaissance et sa transformation en action que les choses se passeront. Et que ça, c'est pas un, comment dire, c'est pas une stratégie de nantis, c'est une stratégie qui est universelle. Donc l'accès à la connaissance qui permet de transformer et de trouver des alternatives, c'est quelque chose d'essentiel. Donc c'est une façon aussi de dériver ou de chanter la question d'une hypothétique estimation d'un taux ou d'un niveau de résilience, et donc tout ce qu'il y a autour. Mais on pourra reprendre le débat ensemble largement. Ouais.
Bonsoir. Je reprends un peu dans la foulée de Didier. La connaissance, c'est important, mais ça ne suffit pas du tout. Il y a plein de gens qui sont hyper compétents et qui continuent de faire les yeux fermés. Ce qui me semble plus important, c'est de la prise de conscience et de passer aux actes. L'exemple de la sixième extinction, ok, oui, il semble qu'on soit dans une sixième extinction, mais il faut nuancer avec la vitesse à laquelle ça se passe. Là, c'est 100 à 1000 fois plus rapide que les extinctions précédentes. Et en animation, moi, je prends l'exemple d'un mur qu'on percute en voiture, en avion ou à vélo à 1 km/h. Mais quand on le percute à 100 ou 1000 km/h, on n'en ressort pas dans le même état. Donc, il y a ça comme petite nuance, il me semble. Alors, Benoît, tu parlais des médias en France. Moi, j'ai pas de télé. On n'a pas envie d'investir là-dedans. même s'il y a un documentaire.
Il n'y a pas que les télés.
Voilà, c'est ça. Par contre, j'écoute deux ou trois chaînes de radio nationales, de moins en moins France Inter, parce que c'est de plus en France Inter TL, avec de plus en plus de pubs, mais France Culture. Et j'ai trouvé que cette année, au niveau des journaux radio, il y avait très peu de choses sur la COP23 par rapport à la COP21. Par contre, il y a eu quelques émissions quand même qui ont fait un zoom là-dessus. Mais j'ai entendu un truc qui est quand même assez positif, c'est que pendant la COP23, il y a eu des moments forts, voire très vifs, entre représentants états-uniens, les uns qui sont sur le discours Trump, et puis d'autres de Californie et d'autres États, qui disaient, mais non, nous, on ne veut pas continuer à cautionner un système qui fait qu'on va à la catastrophe. Donc même au sein des États-Unis, il faut nuancer, et ce n'est pas tous des vilains destructeurs.
Et donc, disons qu'aux États-Unis, pour aller dans ton sens, s'est créé juste après l'annonce de Trump un collectif qui s'appelle, enfin un mouvement même, un mouvement qui s'appelle We Are Still On. Hein. C'est-à-dire que des citoyens, des collectivités, des États, hein, qui se sont engagés à continuer les principes de l'accord de Paris. Hein. Et donc, ils étaient présents, effectivement, à la COP23. Ils ont pesé, effectivement, assez fort, je dirais, sur la COP23 pour dire, bon, voilà, les États-Unis, il y a l'État fédéral, mais il y a aussi les États, les villes, les citoyens qui sont dans un mouvement qui va dans le sens, effectivement, de l'accord de Paris.
Et puis, je voulais revenir un peu sur le gros chapitre éducation. Même si je travaille avec une assoce dans ce domaine-là depuis 25-30 ans, il y a plusieurs acteurs à toucher en éducation. On parle d'éducation et souvent on interprète en pensant aux établissements scolaires. Mais sur l'exemple du gaspillage alimentaire dont tu parlais, Christian, en restauration collective, ce ne sont pas les enfants qui sont responsables de la plupart du gaspillage. Ça représente un quart dans ce que j'ai pesé et quantifié dans des écoles, dont à Migné-Auzance. C'est Migné-Auzance qui, dans ce que j'ai fait sur Grand Poitiers, avait les quantités de gaspillage les plus faibles, vraiment dérisoires. C'est de l'ordre de 20 grammes par jour, par repas et par enfant, alors que la moyenne nationale française est à 150 grammes. 150 grammes. Mais l'éducation, elle doit se faire auprès des gestionnaires, des cuisiniers, des élus. Et comme par hasard, les élus ici présents sont peu nombreux. Je crois que la prise de conscience sur le dérèglement climatique, il faut qu'on fasse un travail éducatif auprès des élus des 40 communes de l'agglo, et pas qu'il y ait seulement Florence Jardin ici présente. Là, il y a un gros boulot. Parce que les élus, moi, je les vois surtout avec une mine réjouie quand, au niveau national, la croissance repart. Mais quand la croissance repart, ou quand ils ont signé un accord avec le Canada pour plus d'échanges commerciaux simplifiés, je ne suis pas du tout sûr que ce soit compatible. Et dernier point, sur l'histoire de prendre l'orientation de la limitation des dérèglements climatiques ou de l'adaptation, moi je souhaite, et pourtant je suis plutôt au nord, qu'on travaille sur la limitation des dégâts, la limitation des dérèglements. Parce que si on va que sur l'adaptation, eh ben, psychologiquement c'est un peu défaitiste. Et après, on ne peut pas dire à des gens du Sud, mais non, il faut que vous vous adaptiez aussi, parce que nous, on ne peut pas prendre les mesures. Et là, pour remercier Didier Mendès-France, il y a 4-5 ans, il y a un gars qui est intervenu sur des journées dérèglement climatique où il y avait 30-40 personnes. C'est pas facile d'attirer des gens, même si vous mettez quand même pas mal de moyens, qui disait, en montrant ce qui se passe, c'est que si un territoire décide d'agir pour limiter les dérèglements climatiques et que tous ses voisins et tout le reste de la planète ne fait rien, eh ben les gens localement vont dépenser beaucoup d'énergie, voire beaucoup d'argent, mais avec un effet sur la globalité. Et la conclusion de ce gars-là, qui était assez préoccupante, c'est de dire on a intérêt à ne rien faire en tant qu'élu, surtout avec un mandat de 4 ans ou 5 ans, par rapport à un enjeu qui est sur pas seulement 50 ans, parce qu'il ne faut pas attendre d'être dans le mur, on est déjà dans le mur. Et mettre une courbe des accidents climatiques ou météorologiques sur les 10-20 dernières années, le montant des cotisations des assureurs et la piste que tu donnes est intéressante, Jean-François, peut permettre de prendre conscience de ça. Et j'ai entendu parler tout à l'heure de lutte, le mot employé par rapport au dérèglement, par rapport au climat. La lutte, ça a un côté peut-être fatigant et violent. Le défi qu'on a eu avec Alternatiba à Poitiers il y a 2 mois, c'était de mettre en valeur des initiatives individuelles, collectives, associatives, de collectivités territoriales, qui depuis des années, voire des décennies chez certains artisans, permet de limiter un impact sur le climat. Il faut qu'on donne envie aux gens avec des choses positives et pas seulement à parler de ce qui ne va pas et ce qui est en train de se bousiller sur la planète. Mais je ne sais pas si j'ai réussi dans mon speech.
Merci. Non, mais merci pour la transition, parce qu'on n'aura pas besoin de la faire. Je voulais maintenant vous parler justement un petit peu d'un projet, d'un programme qui s'appelle Initiative Climat. Bon, ça va dans le sens que tu souhaites. Donc c'est un programme qu'on a monté maintenant il y a à peine 2 ans, puisqu'on on a commencé à la COP21. On est parti un petit peu déjà d'idée que les réseaux d'acteurs en Afrique anglophone était très bien organisé, ce qui n'était pas le cas de l'Afrique francophone. Donc on a fait le choix de travailler sur l'Afrique francophone. Et puis on a mobilisé un certain nombre de partenaires, notamment l'Organisation internationale de la francophonie, le Fonds pour l'environnement mondial, la coopération suisse, etc. Et justement, on est parti de l'idée que sur le terrain, il y avait une multitude d'actions et d'initiatives engagées par des organisations de la société civile, des entrepreneurs, engagés dans l'économie verte, et puis les collectivités. Donc c'est un peu les 3 types d'acteurs qu'on a choisis. Et on a réalisé une... Qu'est-ce qui se passe là ? On a réalisé un recueil d'initiatives climat en ligne qui est disponible sur un site internet, qui comprend actuellement 170 initiatives dans 21 pays d'Afrique francophone. On en a reçu en tout à peu près 450, on en a sélectionné 170. Et depuis l'année dernière, on organise aussi des trophées pour mobiliser un petit peu ces acteurs. Il y a 10 lauréats chaque année qui reçoivent des trophées. L'année dernière, une cérémonie s'est tenue à Marrakech pendant la COP22, et puis cette année, évidemment, à Bonn pendant la COP23. C'est l'occasion aussi de faire venir une délégation d'une vingtaine de personnes de ces pays-là et organiser tout un ensemble d'événements parallèles. On en a organisé 4 là, pendant la COP23, à la fois sur l'engagement de la société civile, l'engagement des collectivités, l'engagement des entrepreneurs verts, et puis sur un thème sur lequel on commence à travailler beaucoup maintenant, c'est la coopération Sud-Sud. Très souvent, on a l'impression que les savoirs... on pense que les savoirs viennent du Nord, alors que l'expérience, très souvent, elle est au Sud, et on ne travaille pas suffisamment sur la valorisation des pratiques et des savoirs qui ont été développés dans les pays du Sud. Donc là, par exemple, on a un jeune entrepreneur vert qui a mis en place une unité de fabrication de charbon vert au Maroc. Et là, je vais vous montrer un reportage qu'on a tourné il y a quelques semaines au Bénin, là, avec ce jeune entrepreneur, Johannes, qui a mis en place en fait toute une chaîne de valeur dans le domaine de la production des produits maraîchers biologiques. Et donc, si on peut passer la vidéo, je pense que ça nous fera un petit intermède aussi intéressant, puis on reprendra ça plus tard.
Nous sommes à Cotonou, la capitale économique du Bénin, qui compte 800 000 habitants. Je suis un entrepreneur vert, manager communicant d'entreprise, formateur des petites et moyennes entreprises, manager de Premium Octus, créé en 2016 et qui compte aujourd'hui 6 collaborateurs. J'ai l'habitude de former les startups en management d'innovation. L'activité que nous avons eue aujourd'hui consiste à renforcer la capacité des entrepreneurs verts en élaboration de business model et en innovation verte.
À près de 25 000 francs.
Mon activité principale consiste à gérer Premium Octus en vue de créer une filière courte entre les producteurs biologiques et les consommateurs. En amont de la filière, nous travaillons avec des groupements de producteurs maraîchers biologiques qui sont situés à la périphérie de Cotonou. Parmi les groupements, nous travaillons en étroite collaboration avec le réseau africain des maraîchers éco-santé, RAMERS. À ces groupements de producteurs, nous apportons des appuis techniques en termes de management. Nous apportons également une véritable accessibilité aux biofertilisants et aussi la commercialisation en ligne de leurs produits finaux. Nous collaborons aussi avec des start-up qui font partie de l'incubateur d'université d'Abomey-Calavi, dont un producteur de biofertilisants. Ces biofertilisants sont fabriqués à base des plantes adventices, récoltées ici au Bénin, mais traitées au laboratoire pour sortir des produits finaux très performants, appréciés par les producteurs. Nous disposons d'une portion de 800 m² de production biologique pour répondre rapidement à la demande au cas où les groupements de producteurs ne l'auraient pas satisfait, car parfois il est difficile de faire face à la demande. Nous commercialisons beaucoup plus des produits maraîchers traditionnels qui servent à la préparation de la sauce, en accompagnement des tubercules et céréales, mais aussi des produits fruits et légumes plus communs. Nous avons conçu une plateforme disponible sous forme web et mobile qui permet au consommateur final de commander son produit et de se faire livrer à domicile en temps réel. C'est la première plateforme d'e-commerce et d'appui aux producteurs de produits biologiques dans la sous-région et notamment dans l'Afrique de l'Ouest.
Bonjour, bonne arrivée.
Nous comptons aujourd'hui environ 700 clients déclinés en collectivités, restaurants, hôtels et ménages. Notre projet génère plusieurs impacts positifs. La réduction des gaz à effet de serre émis par l'agriculture conventionnelle, l'adaptation des producteurs aux effets des changements climatiques, la préservation de la biodiversité, de la faune et de la flore. Nous avons également au niveau du consommateur la préservation de sa santé, la consommation responsable et tout ceci pour vivre dans un environnement sain. Il ne sert à rien de produire pour nuire à la santé du consommateur et de l'environnement. Aujourd'hui, nous devons intégrer la santé du consommateur et l'environnement dans notre stratégie d'entreprise. Aux jeunes entrepreneurs, je leur demande de persévérer sur le chemin de l'innovation verte, car l'agriculture s'est écrite avec ses imperfections, mais nous pouvons écrire son avenir.
Voilà, donc ça, c'est un exemple, effectivement, d'initiatives qu'on a recensées. Vous verrez sur le site, si ça vous intéresse, il y en a des dizaines qui sont extrêmement diverses. On a cette année, par exemple, un groupement de femmes au Tchad qui est installé à peu près à 80 km au nord de N'Djamena, dans un terrain désertique. Les femmes là-bas ne sont pas propriétaires de la terre. Donc, elles ont demandé aux hommes de mettre à disposition des terres. On a mis à leur disposition 80 hectares. Elles ont mis en valeur ces 80 hectares en agroforesterie. C'est un groupement de 53 femmes. Et au bout de 10 ans, ça devient une exploitation très importante. Ils ont créé 30 emplois pour des jeunes. Et tout ça avec une aide très appréciable de 8000 euros pendant 10 ans. C'est-à-dire 800 euros par an. Voyez. Donc on voit aussi que ce type de projet se fait avec des moyens extrêmement réduits. C'est la mobilisation, l'engagement effectivement des populations sur le terrain. qui fait que ces projets aboutissent. Alors évidemment, on parlait tout à l'heure de la finance climat. Bien sûr, on a besoin d'argent. Le problème aussi, je ne vous le cache pas, lorsque l'argent arrive en Afrique, il reste dans certaines poches où il sert au fonctionnement des administrations. Il y a très peu d'argent qui arrive sur le terrain, très très peu. Et donc il faut trouver des moyens pour que ces gens-là puissent travailler. Il y a donc des réseaux qui se mettent en place. Et donc on est en train, dans le cadre de ce programme, de développer justement la coopération sud-sud. On donnait l'année dernière l'exemple du charbon vert. On a plusieurs producteurs de charbon vert, notamment au Cameroun, au Maroc, au Bénin, etc. Et les échanges d'expérience entre ces patriciens vont permettre de mettre en place des unités dans d'autres pays, d'autres régions. Donc pour que ce type de projet, effectivement, essaime. Alors là, on parlait des entrepreneurs, on peut aussi parler des collectivités qui ont engagé aussi des... On a 17 collectivités cette année qui sont recensées dans la base de données, qui ont engagé des projets tout à fait intéressants, que ce soit dans le domaine de la maîtrise des ressources en eau, le domaine aussi de la production biologique, la lutte contre la désertification. Bon, malheureusement, ça reste encore un peu des exceptions. Mais on sait à travers ces exemples-là ce qui est possible de faire si les gens se mobilisent et trouvent les bons partenaires pour se développer. Nous avions, lors de ce side event là, sur les organisations de la société civile, la directrice générale du Fonds pour l'environnement mondial, qui apprécie beaucoup ce genre de démarche. C'est la seule, vraisemblablement, seule bailleur de fonds international qui accorde des subventions relativement modestes aux porteurs de projets. Vous savez que les grands projets de la BAD, de la Banque mondiale, etc., c'est des millions, voire des dizaines de millions de dollars. Bon, là, ce sont des projets à hauteur de 50 000 dollars, maximum 50 000 dollars, mais qui permettent d'avoir des impacts sur le terrain tout à fait intéressants. Et la COP23, ben, c'est l'occasion pour nous de se faire rencontrer ces gens-là. On a à chaque fois donc des responsables d'organisations internationales. Cette année, nous avons eu des ministres, nous avons eu aussi le chef des négociations COP22, on a eu la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, et on fait rencontrer ces gens-là avec les acteurs de terrain. Et c'est très bénéfique pour les deux parties, ceux qui sont en haut dans leur bureau à gérer les dossiers dans leur ordinateur voient enfin des acteurs de terrain, et les acteurs de terrain voient leur action reconnue, je dirais, au niveau international. Et lorsqu'ils reviennent effectivement dans leur pays, ils ont évidemment un nouveau positionnement. Nous avions aussi cette année une femme qui développe des éoliennes, qui a créé des éoliennes au Sénégal et qui sont fabriquées à 100% au Sénégal. Parce que tout le matériel importé ne convenait pas aux conditions d'utilisation dans le pays. Et donc, ils ont développé ce type un modèle tout à fait adapté et fabriqué localement. Voilà, je pourrais multiplier effectivement les exemples. Bon, là, c'est notre cérémonie de remise des trophées là, qui s'est passée jeudi dernier, en la présence donc le chef des négociations de la COP. Voilà, ce sont les lauréats des deux collectivités, une collectivité du Niger, une collectivité du Bénin, qui est deux lauréats des collectivités cette année. Là, ce sont les lauréats de la catégorie organisation de la société civile, avec une association du Maroc, une association de femmes au Maroc, une autre association en Algérie qui a lancé un programme de plantation d'arbres. En l'espace d'une semaine, ils ont mobilisé 450 personnes et ils ont planté plus de 60 000 arbres. Et maintenant, à la fin de la cérémonie, le représentant d'Algérie a dit « Bon, on a fait ça au niveau de notre ville, maintenant on va le faire au niveau de la région, puis demain on va proposer au gouvernement de le faire au niveau du pays dans son entier, un arbre par habitant pour pouvoir reboiser le pays. » Voilà, bon, ça c'est des images de la cérémonie. Et puis on a aussi des groupes de femmes très engagées effectivement dans cette aventure.
Merci. J'imagine que le prix, c'est celui-là. Alors, l'an dernier, on avait fait une réunion. On avait imaginé que sur une agglomération comme Poitiers, on pouvait lancer ce type de démarche qui permet de gratifier ceux qui travaillent dans l'ombre et qui travaillent parfois avec des difficultés, comment dire, par absence de relations avec des réseaux, etc. Je voulais, Florence, tout à l'heure, je te donnerai le micro, peut-être aussi nous donner des informations sur la manière dont, au sein de Grand Poitiers, vous avez avancé par rapport à ça, parce que je sais que vous vous mettez en ordre de travail et qu'il y a peut-être des choses qui vont intéresser justement pour le futur. Les Poitevins ignorent trop souvent qu'ils ont une université dans leur tissu et qu'au sein de cette université se passe beaucoup de choses. Je voulais donner la parole à notre chercheur de l'École supérieure d'ingénieurs de Poitiers, parce que la nationale. Parce qu'il y a des choses qui... Moi, je connais cette plateforme depuis tout le temps, heureusement ou malheureusement, mais j'ai été impressionné parce qu'on a reçu ici une délégation de, je veux dire, très haut niveau, ça ne veut rien dire, du Japon, Okayama, une très grosse université, et il s'est passé plein de choses suite à ça, et j'ai été assez sidéré de leur réaction quand ils sont revenus ici par rapport à ce que vous faites, donc en particulier sur la qualité de l'eau, des équipements tels que vous les développez. Donc, vous pourriez en dire un mot, je pense que c'est important.
Oui, tout à fait. Oui. Bah, déjà, je vous remercie de nous avoir conviés à cette soirée. De toute façon, je serais venu parce que ça m'intéressait à titre personnel et citoyen, comme vous disiez. Donc, on peut être là à différents titres et ça tombe bien. Donc, par rapport à ce qui est fait à l'Université de Poitiers, puis pour rebondir un petit peu à ce qu'on a vu sur tout ce qui est aspect, on va dire, adaptation au changement climatique, en fait, dans toutes les universités de France, il y a beaucoup de chercheurs de beaucoup de disciplines qui s'intéressent, avec chacun, j'allais dire, leur discipline et leurs compétences, donc leur regard à ces questions-là. Donc ça va de l'économie, ça va de la sociologie, parce que vous avez parlé des mouvements qu'il peut y avoir au niveau des migrants, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui s'interrogent sur la perception qu'il peut y avoir vis-à-vis côté occidental et vis-à-vis de ces populations-là. Et j'allais dire, pour avoir moi aussi pas mal été aussi bien en Asie du Sud-Est ou dans plein de pays, j'allais dire quelque chose qui m'a surtout marqué par rapport au changement climatique, au-delà de mes collègues qui ont un niveau peut-être, j'allais dire, de connaissances et d'éducation supérieure, c'est de voir qu'avec l'ensemble de la population, c'était l'acceptation qu'ils avaient de leur situation et finalement de se rendre compte que le changement climatique, ils le voient, ils en souffrent. Mais j'allais dire, je n'ai pas eu l'impression qu'ils étaient totalement démunis et désespérés par rapport à ça. Et un jour, un enfant, donc vietnamien, parce que j'ai beaucoup travaillé avec le Vietnam, m'a dit, de toute façon, quand tu n'as pas grand-chose et que tu en perds la moitié, bah, de toute façon, ça ne fait toujours pas grand-chose. Donc il m'a dit ça avec un anglais un peu français, enfin bon bref, vous imaginez. Et j'allais dire, c'est vrai, ça fait énormément relativiser par rapport à comment on perçoit nous aussi ces choses-là. Et quand on arrive, nous, avec nos gros outils de scientifiques, et encore plus de scientifiques français ou occidentaux, comment des fois on est totalement décalé par rapport à ces thématiques-là. Alors pour en revenir maintenant donc, à ce que l'on a à Poitiers, nous on s'intéresse pas forcément au changement climatique, mais à la qualité des eaux. J'allais dire, un mot que vous n'avez pas mis, mais vous l'avez mis la définition, c'est les services que donne le milieu, on appelle ça les services écosystémiques. Donc c'est vrai que c'est très important, il y a l'eau pour l'eau potable, mais il y a aussi l'eau pour tous les autres aspects, l'agriculture, les loisirs, et finalement c'est l'ensemble de ces services. Donc nous on s'intéresse à la qualité avec à la fois des études, bien sûr, d'environnement, des choses comme ça. Et puis aussi par rapport au changement climatique, on a toute une batterie finalement de mini-pilotes. Donc en fait on pourrait créer toute une station d'eau potable, toute une station d'épuration. Et ces derniers temps, ce qui nous intéresse ou ce qui nous a intéressé, c'était de voir finalement, sous un contexte de changement climatique, donc d'évolution des ressources, est-ce que nos stratégies, notre capacité à produire de l'eau, à traiter de l'eau, et est-ce que le milieu récepteur vont être capable finalement, c'est ce qu'on a dit, de s'adapter. Et donc on est en train de lancer, donc, notamment dans le cadre avec l'ARS, avec différents partenaires en région, et pas qu'en région d'ailleurs, des études pour voir si finalement quelques degrés en plus, qui font quelques mètres cubes en moins, vont concentrer les polluants, vont concentrer différents éléments dans les rivières. Et est-ce que demain, on sera capable toujours de, j'allais dire, alimenter l'ensemble de la population de Poitiers en eau potable, par exemple? Ou alors, est-ce que le coût va augmenter? Et j'allais dire, est-ce que tout le monde est prêt à en payer le coût? Et est-ce que ça ne va pas finalement faire que des personnes vont être de moins en moins en accès à l'eau? Et voilà. Donc, c'est des questions qui finalement sont à la fois citoyennes, abordées par des aspects scientifiques et des pilotes de recherche. Et c'est vrai qu'on a la chance, vous l'avez dit, d'avoir des halls d'essai avec une multitude de pilotes. J'ai des collègues scientifiques, mais j'ai aussi la chance d'avoir des collègues qui sont tourneurs, ajusteurs, des maîtres verriers, et qui finalement sont capables de concevoir tout ce qui est dans ma tête, même mes dessins les plus, j'allais dire, loufoques, me les conceptualiser, me les concrétiser en pilote, et nous permet d'étudier énormément de situations liées à l'eau, à son usage, à la ressource. Donc c'est vrai que voilà, c'est un beau site à visiter, donc si les gens sont intéressés, n'hésitez pas, nous sommes ouverts quand vous voulez, nous sommes une université, donc nous accueillons le public, et souvent d'ailleurs, nous avons des visites de lycéens, donc dans le cadre d'une convention qui est passée aussi avec le rectorat, où nous accueillons les élèves de première ou terminale, pour faire des visites et pour leur montrer un petit peu les enjeux liés à l'eau, à la catalyse, à différents aspects en fait.
Merci, merci pour ce témoignage. Madame Jardin, voudriez-vous nous dire quelques mots ?
Oui, tout d'abord, je voulais te remercier d'avoir cité Minier, mais je ne voudrais pas non plus complètement tirer la couverture sur un seul élu. On est très nombreux, c'est vrai. Tout le monde n'est pas forcément totalement impliqué, mais on est également très sollicité. Donc, on m'a chargé de représenter Grand Poitiers ce soir. Je vais essayer de le faire. Grand Poitiers, ça évolue quand même. Bonne nouvelle, la transition énergétique est passée priorité numéro 1. C'est quand même une belle avancée. Je crois qu'il y a un certain nombre de personnes ici qui ont été élues auparavant, qui ont commencé le travail, qu'on a essayé de continuer. Et donc, au bout d'un moment, ça porte ses fruits. Dire également que je rejoins le discours où on est passé à un moment donné de quelque chose de théorique, de technocratique peut-être, à maintenant, on passe à l'action. La sensibilisation, c'est terminé parce qu'effectivement, tout le monde a un minimum de niveau de conscience. Mais maintenant, c'est on passe à l'acte et aussi... on vous accompagne. Donc, pour donner quelques exemples, on travaille beaucoup maintenant avec les habitants sur les travaux pour faire des économies d'énergie dans leur logement. Et parallèlement, donc là, ce sont des dispositifs d'accompagnement vraiment avec visite à domicile, etc. Donc, ça va très loin dans l'accompagnement. Il y a eu tout le travail sur les déchets. On a eu un premier programme où on a réussi à descendre de 7% les déchets produits sur l'agglomération. On est inscrit dans un deuxième programme où on a l'ambition de diminuer encore de 10%. Et ça fonctionne relativement bien puisque nous mettons aussi un certain nombre de services complémentaires à disposition des habitants pour accompagner les changements de comportement. Donc, notamment sur les déchets verts, sur des choses, sur les objets, les encombrants, etc. Donc il y a beaucoup de choses mises en œuvre. Donc c'est toutes les compétences de l'agglomération en fait sont regardées par ce prisme-là. Donc que ce soit les déplacements avec en interne un changement de flotte de véhicules pour passer à l'électrique, un changement aussi au niveau de la motorisation des bus, un accompagnement des habitants et une mise à disposition de vélos électriques, de vélos, etc. Donc il y a beaucoup de domaines de compétences dans lesquels l'agglo travaille vraiment sur le domaine de l'environnement. Et le regard des habitants a tout de même changé. Moi, je suis élue depuis 2008, quand on a commencé à mettre en œuvre déjà la loi et à aussi être encore plus incitatif que ça sur les désherbants. Et je pense que tous les jours, en mairie et au sein des services de l'agglo, il y avait des coups de fil pour dire « c'est sale, il y a de l'herbe qui pousse ». On n'a plus ça aujourd'hui. Il y a vraiment aussi un phénomène de prise en compte et d'habitude. Donc c'est vrai qu'il y a toujours un point de friction au moment où on change quelque chose, qui est un peu de la résistance au changement, qui est un peu des idées reçues. Et petit à petit, finalement, on avance. Donc priorité numéro un sur Grand Poitiers, je pense que c'est une bonne chose. Et en matière de projet, c'est tout ce qui est diminution de nos consommations en matière d'énergie. Donc là aussi, on travaille nous-mêmes sur tout ce qui est éclairage public, sur éclairer juste. Hein. On n'a pas dit qu'on allait tout éteindre tout le temps, mais il y a des modalités. Il y a aussi des formes d'éclairage qu'il faut changer. Donc tout ça, c'est en cours. Il y a des dispositifs donc, de mis en place, bien sûr, dans les bâtiments publics. Donc la collectivité étant elle-même exemplaire, on peut parler maintenant de retour sur investissement, ce qui est quand même une nouveauté. C'est-à-dire que les économies qu'on fait en matière de dépenses énergétiques, on arrive à maintenant à les réintégrer dans des dispositifs finalement d'investissement. Et donc c'est une machine qui s'emballe et dans le bon sens du terme.
Merci de ce témoignage. Oui, parce que quand on avait fait la dernière réunion autour de la COP21, Grand Poitiers n'était pas encore configuré dans sa forme territoriale qui maintenant va vivre sa vie. Et cette dimension pour l'accompagnement de projet n'avait pas encore été étudiée, prise en compte, etc. Alors, sachez simplement que dans les discussions qu'une maison comme la nôtre vient d'avoir, entre un certain nombre d'établissements, comme la Caisse des dépôts, par exemple, et des intermédiaires comme l'Espace Mendès France, mais aussi mes collègues de France et de Navarre, est en train d'émerger une idée d'accompagnement à des projets qui permettrait, avec les collectivités, de faire effet de levier financier sur des projets à haute valeur environnementale, en promouvant le plus possible dans le monde de l'entreprise et de l'artisanat, parce qu'il y a un énorme travail. Je pense que je ne veux pas dire que la bataille familiale et domestique est gagnée, mais pas mal de gens ont pris conscience de ce genre de choses. Mais dans le monde économique, artisanal et autres, une récente réunion avec la Chambre des métiers nous a montré qu'il y avait, encore beaucoup de grains à moudre. Et donc la collectivité a un rôle essentiel là-dessus.
Alors oui, pour rajouter, effectivement, la collectivité travaille également avec les acteurs. Il y a déjà des associations d'acteurs économiques qui sont constituées. Pour certaines, il y en a qui ont des commissions environnement, et on les a accompagnés dans un premier temps sur un programme autour de leurs déchets. Et aujourd'hui, ils sont dans une démarche d'économie circulaire pour certains. Et là aussi, je pense que ça peut faire boule de neige parce qu'ils ont aussi tout à y gagner dans leur gestion et dans leur économie d'entreprise. Alors, je n'ai pas précisé, on est donc inscrit dans un très grand nombre de dispositifs. On est labellisé Citergy, donc qui donne une image de l'exemplarité de la collectivité en termes d'énergie, qui donne aussi des objectifs, hein, parce qu'il ne suffit pas de se contenter de là où on est. Et on est inscrit, donc, puisque nous devons faire un plan climat, air, énergie, territoire, nous travaillons sur ce dispositif-là et nous avons lancé donc, un schéma directeur des énergies. Donc là aussi, avec les acteurs, notamment l'université, notamment. Voilà.
Merci de ces informations. Est-ce qu'il y a des choses complémentaires, des demandes? Oui, monsieur Lomont. Mais non, parle dans le micro. Puis...
Remercier Thierry qui est là, Didier, de l'Espace Mendès France, de fait de valoriser le travail de connaissance qui est fait par quelqu'un qui est de Poitiers, mais qui travaille au niveau de la planète. C'est Benoît. Et de montrer que... la situation est grave, mais pas désespérée, qu'il y a des initiatives climat extrêmement intéressantes dans un pays, dans le continent africain, avec, chez les francophones en particulier, c'est remarquable. Hein, ce qui avait été dit il y a un an pour la COP22, après le Maroc, il avait été dit que ça serait peut-être pas plus mal, et les choses restent là, des gens travaillent là-dessus, d'essayer de valoriser aussi... ce qui se fait sans qu'il y ait de projecteur dessus, mais d'essayer de mettre un coup de projecteur dans le Grand Poitiers. Moi, je me souviens bien de ce qui avait été dit dans la salle d'à côté. Et il y avait des gens qui avaient présenté le travail qu'ils faisaient dans le domaine de l'énergie. Ouais. Ça vaut le coup, ça se fait, c'est une énergie partagée, je crois que ça continue. Il y a des gens qui bossent... pour un jardin potager bio dans une école primaire, c'est extrêmement intéressant. Il y en a, et on se rendra compte peut-être qu'il y en a des dizaines qui se font là. C'est en dehors du travail qui est fait à Migné ou ailleurs. Il y a plein de gens qui bossent. Et même quelqu'un était venu vous présenter ce qui serait un Antiba de cette année. Je crois qu'il y a plein et plein de gens qui travaillent pour que la situation actuelle ne soit pas le début de la fin de l'humanité. On est sur cette planète-là, c'est nous qui sommes en danger, enfin nos enfants et nos petits-enfants. On peut travailler, et rien de tel que de valoriser ce qui est fait par des gens qu'on côtoie et qu'on ne voit pas. Par exemple, le changement climatique, le texte, il y a eu beaucoup, beaucoup de textes, dans la presse écrite en particulier, hein, sur le changement climatique, les textes longs, les textes intéressants. Hein. Ça va donc des scientifiques. Hein. Mais bon, la presse locale n'a peut-être pas su, comme Sud-Ouest a fait à Bordeaux, qu'il y avait quelques dizaines de scientifiques de la région, de Poitiers, de l'université, du CNRS, de Chizé et de La Rochelle, qui avaient signé. Bon, Sud-Ouest l'a fait, a interrogé les gens qui ont signé, puis ils ont donné des choses intéressantes à faire pour éviter que le Bordeaux soit cultivé au nord de Londres. Bon, il y a peut-être des choses à faire. Et où que la côte... Aquitaine, aille jusqu'à Blaye, quoi. Ça vaut le coup de le faire. Et nous, on a aussi, dans un territoire qui a un sens, au niveau de l'importance, des gens qui font un peu la même chose. Alors, pourquoi pas initiative climat à Grand Poitiers ou Vienne ou nouvelle région.
Merci. Je profite de ce que vient de dire Daniel pour vous dire que vous avez laissé vos adresses courriels ici. Donc, nous avons l'intention ici, dans cet établissement et nous avons commencé dès fin septembre, d'animer une communauté justement qui permet de faire part des bonnes pratiques ou d'informer sur la manière dont des projets ont pu être menés. Donc, nous a rejoint récemment, donc je vous le présente, Vivien Juchot-Stupart, qui est au fond, là, qui est actuellement en stage universitaire au sein de l'espace Mendès France. Donc, on va monter à côté de lui, avec les collègues, un pôle dédié à l'environnement qui permette de travailler sur le registre complet de la recherche jusqu'à l'application la plus domestique et la plus quotidienne qui soit, parce que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Et puis, Benoît, un jour, je referai un débat sur savoir et connaissance avec toi, parce que de l'expertise... Jules Ferry, il disait, l'éducation, c'est l'instruction plus les valeurs. Pour moi, la connaissance, c'est les savoirs plus le sens de l'éthique et de la collectivité. Et c'est vrai que par rapport au témoignage que tu as rapporté de ce scientifique qui disait « si on est tout seul à faire ça et que les autres ne le font pas, ça ne sert à rien », je pense qu'il y a quelque chose à débattre sur la place de la recherche, de l'université, dans une dimension éthique. Et Florence, par rapport à ce que tu dis, et si nous, on passe un accord avec la Caisse des dépôts, ce serait pour promouvoir des projets qui sont plus généralement dans la solidarité et le sens de l'économie circulaire, tel qu'on l'appelle maintenant, qui changera sûrement de nom à un moment ou un autre. Donc promouvoir ce genre de choses pour que les gens y sentent qu'ils sont dans des collectifs d'action, et pas tout seul dans son coin où l'énergie petit à petit se délite. Donc recréer des solidarités, sortir de l'entre-soi pour arriver à mobiliser des personnes qui ne sont pas forcément dans les mêmes sphères que les nôtres. Donc là, c'est un travail qui est devant nous et qui est devant Grand Poitiers. Donc nous, on sera acteurs à vos côtés pour promouvoir cette dimension-là. Hein, voilà, si c'est pas une conclusion, hein, mais c'est une façon de vous dire qu'on va se retrouver l'an prochain après la COP24. On parlera polonais et on boira de la vodka pour voir quels sont les premiers prix qui seront remis à quelques initiatives de Grand Poitiers. Merci Benoît, merci de votre attention et de vos interventions, et puis à très bientôt. Bonsoir.
Voilà, on vous a remis, je crois, une plaquette. C'est la plaquette des trophées 2017. Donc là, vous avez une trentaine de projets qui sont présentés. Maintenant, sur le site internet, vous en trouverez 170. Donc, vous avez de la lecture pour les soirées d'hiver. Et puis, ceux qui veulent rester informés de nos activités, vous pouvez rejoindre le compte Facebook ou regarder régulièrement le site internet. Voilà.